that is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them.
Aujourd'hui, dans Carrefour de l'aventure, sur RCF, l'histoire prend un peu des chemins buissonniers d'une belle hypothèse. C'est celle-ci que vous êtes invité à envisager. William Shakespeare, né il y a 450 ans à Stratford-upon-Avon, en avril 1564, a-t-il été un espion au service d'Élisabeth Ière d'Angleterre? C'est ce que suggèrent depuis quelques décennies un certain nombre d'écrivains, d'anciens diplomates, de chercheurs, en Angleterre et en France. Il est tentant, en conséquence, de chercher à débrouiller une piste ou un écheveau digne d'une intrigue de Sir Arthur Conan Doyle ou de la redoutable Agatha Christie, la dame élégante au stylo qui tuait, selon l'expression d'un critique littéraire fameux. L'émission d'aujourd'hui, cependant, n'est pas sans être sérieuse, malgré ses allures de divertissement historique. J'espère en tout cas que ce divertissement-là vous plaira. Une partie du mystère qui nous occupe aujourd'hui repose, au sujet de Shakespeare, sur un constat chronologique. À partir de 1582, il existe un trou de 8 ans, au moins, 8 années inconnues que les Anglais qualifient de « lost years » dans la biographie de Shakespeare. Ces années-là ne furent cependant assurément pas vides, mais quelques-unes des hypothèses ne tiennent pas véritablement solidement pour les expliquer ou les remplir. Et on le mesure, ce manque de sûreté, dans certaines affirmations tardives, sur une carrière d'acteur à la Molière, par exemple, débutée à 23 ans, en 1587, pour remplacer un acteur qui venait d'être tué en duel au sein d'une troupe itinérante. Ce remplacement ne résiste guère à certains éléments solides, malgré cela, c'est une tradition extrêmement tenace. La seule chose dont on soit absolument sûr, c'est que William Shakespeare, fils d'un négociant en laine de sa localité natale du Warwickshire, ce père étant un homme assez bien considéré et suffisamment important pour faire une carrière politique et municipale bien remplie avant de subir des déboires dans ses affaires, c'est donc que William Shakespeare, son rejeton, a étudié pendant près de 10 ans dans la Grammar School royale de sa ville natale, l'anglais, le grec et le latin principalement. William, jusqu'à l'âge de 14 ans, a donc reçu une éducation classique et moyenne, mais honorable et assez solide de toute façon, même si elle ne s'est pas poursuivie, à l'inverse de l'un de ses contemporains et amis, le futur dramaturge Christopher Marlowe, au sein d'une prestigieuse université de Cambridge par exemple. Entre 1582 et 1585, William Shakespeare est marié et père de famille, et il disparaît de Stratford assez brusquement. A-t-il été, comme ses amis écrivains Ben Jonson et Marlowe, un soldat? C'était l'hypothèse, peu après la Seconde Guerre mondiale, d'un diplomate et écrivain qui connaissait bien les milieux du secret, et le cadre militaire aussi, Duff Cooper. En 1949, Duff Cooper écrivit donc, en reprenant une idée d'ailleurs du 19e siècle, mais avec plus de séduction dans son argumentation et son propre style, un ouvrage qui fit sensation sans réellement convaincre malgré quelques interrogations extrêmement pertinentes et de belles intuitions sans doute. Ce livre, c'était Sergeant Shakespeare qui affirmait que Shakespeare avait dû servir aux Pays-Bas sous les ordres militaires du comte de Leicester. Quelques années plus tôt, un autre écrivain faisait de Shakespeare un marin, un compagnon des campagnes et du tour du monde de Sir Francis Drake. Pour cette dernière hypothèse, cependant, cela reposait sur des convictions, mais guère sur des preuves. Shakespeare a-t-il été, à partir de 1587, un acteur? Comme le remarque un passionné français du sujet, Jean Bourdier, avec des arguments très solides sur l'hypothèse de l'espionnage et de la carrière d'agent secret, cette carrière d'acteur-là s'est, d'après lui, fort peu solidement et sérieusement tenue et tenable. Shakespeare, du reste, dans ses propres pièces, après 1590, n'a guère joué la comédie. Il n'a fait que des apparitions que Jean Bourdier compare malicieusement et très joliment, avec beaucoup de pertinence aussi, au clin d'œil cinématographique d'Alfred Hitchcock dans ses propres films. RCF, l'émission Carrefour de l'aventure. Aujourd'hui, William Shakespeare était-il un agent anglais de la reine Elisabeth Ier ? Christopher Marlowe et Ben Jonson, amis et complices au théâtre de Shakespeare, ont été, eux, à coup sûr, des soldats, et sans doute dans la fameuse campagne du comte de Leicester, dans la future Hollande. Mais si Shakespeare n'a pas, de manière assurée, été lui un militaire engagé sur le continent européen au service de la couronne d'Angleterre, il reste, parmi d'autres, un élément troublant. Sa connaissance profonde du fait militaire et de la vie de soldat, des mœurs générales, du métier des armes, et c'était justement cette connaissance approfondie et visible dans ses pièces qui troublait énormément Duff Cooper. Au vrai, on a attribué à William Shakespeare bien des métiers, toujours sans véritable preuve. Si l'hypothèse d'un Shakespeare soldat est celle d'un William Shakespeare marin, avant sa carrière de dramaturge sont peu solides ou pas assez convaincantes, comment en viendrait-on plus solidement à l'hypothèse sérieuse d'un espion de choc au service de la dynastie des Tudors d'Angleterre par une série de rapprochements assez troublants et quelques faits concrets sans doute aussi. Selon un professeur de l'université de Newcastle qui consacra un livre important aux années perdu de la biographie shakespearienne en 1985, il est très probable que Shakespeare ait été, après son départ de sa ville natale, engagé comme professeur pour des enfants dans deux familles catholiques et importantes du Lancashire, les Houghton et les Hesketh. On trouve au service de cette dernière famille des Hesketh un professeur nommé dans les papiers, peut-être avec un nom mal orthographié, ce qui était une pratique finalement extrêmement courante à l'époque, un professeur donc nommé William Shakespeare. Le lien entre ces familles et le William Shakespeare que nous connaissons serait bien établi d'ailleurs. Il passerait par l'un de ses professeurs à Stratford-upon-Avon, John Cotton, lui aussi catholique. Ce serait grâce à la famille de Sir Thomas Hesketh que le jeune Shakespeare aurait fait la connaissance de Ferdinando Stanley Lord Strange, le futur cinquième comte de Derby, catholique de naissance, quoique ayant des pratiques plus occultes et finissant sa vie soupçonné d'athéisme. Or, Lord Strange sera entre 1592 et 1594 le mécène, le principal soutien et le vrai patron théâtral de Shakespeare, son protecteur. Ce lord-là était surtout un membre des services secrets de la reine Élisabeth, des services fondés en 1573 par l'homme politique et gouvernemental le plus important de l'époque, Sir Francis Walsingham. C'est ce dernier, mort en 1590, qui aurait recruté comme agent de renseignement et de terrain le jeune William Shakespeare. Cela pourrait se situer dès 1587, selon un chercheur, John Cunningham. Sir William Walsingham, s'il maltraitait le clergé catholique résistant, avait parmi les recrues de son service secret des personnalités qui étaient catholiques, au moins par leur origine et leur naissance et leur famille, dont le fameux Lord Strange, comte de Derby. Mais surtout, l'une des particularités du service était de recruter parmi les écrivains, les hommes de théâtre, les dramaturges et les poètes. Parmi les membres de ce service, qui étaient ou dramaturges, ou poètes, ou écrivains, figuraient Christopher Marlowe, George Chapman, un poète, Anthony Munday, qui fut un brillant dramaturge, Philip Sidney, un poète délicat, et donc, connaissant la plupart de ces garçons-là, pourquoi pas William Shakespeare lui-même, qui était à l'époque jeune, détaché de sa famille, libre donc de ses mouvements. écoutez RCF, l'émission Carrefour de l'aventure. Aujourd'hui, William Shakespeare était-il un agent anglais de la reine Elisabeth Ier ? L'hypothèse est séduisante. Du reste, Shakespeare, on l'a vu, est très lié à Lord Strange. Il est extrêmement lié aussi à Christopher Marlowe, qui est son exact contemporain, à quelques mois près, du moins contemporain de naissance. Il est également lié à un homme qui dirige un cercle occulte assez mystérieux, et cet homme est le voyageur, explorateur et esprit bien en cours jusqu'à un certain point, Sir Walter Raleigh. On sait que Anthony Munday employa Shakespeare pour l'aider à écrire une pièce sur Thomas More en 1592 parce qu'il était déjà débordé par ses propres activités d'agent secret en plus de ses activités de dramaturge. Mais hors des liens amicaux ou plus occultes avec de nombreux membres, poètes et agents itinérants et voyageurs du service secret fondé par Sir Francis Walsingham, vous écoutez RCF, l'émission Carrefour de l'aventure. Aujourd'hui, William Shakespeare était-il un agent anglais de la reine Elisabeth Ier ? Il y a peut-être des éléments encore plus sûrs pour ce qui concerne l'action secrète dans le renseignement, dans les services secrets, au profit d'Elisabeth d'Angleterre et de son gouvernement, par William Shakespeare, entre 1587 et 1601 au moins. L'un des éléments les plus étranges est la très bonne connaissance de la langue française par Shakespeare, ce qui semble indiquer non pas une formation scolaire ou universitaire ou de lettré, mais bel et bien un apprentissage de cette langue sur le terrain, localement, en France donc, par des voyages et sur le tas. Alors là, bien sûr, on pourrait envisager une hypothèse. en se fiant justement, par exemple, aux tournées en province de Molière ou aux tournées que nous connaissons dans le monde théâtral aujourd'hui. Des tournées, des voyages de Shakespeare avec sa troupe et son répertoire de théâtre en France ou par exemple aussi familier comme décor pour son œuvre, l'Italie. Eh bien, cette hypothèse des tournées théâtrales ne tient guère, car enfin, en France à l'époque, on parlait les différentes variantes du français, mais on ne parlait pas anglais. En Italie, même chose. Qu'aurait fait une troupe anglaise jouant dans le répertoire anglais en Italie ou en France, alors même qu'on ne trouve d'ailleurs aucune trace dans les archives de tels passages de troupes anglaises en Italie ou en France. Shakespeare sera joué véritablement en France au XIXe siècle, en pleine époque romantique, par des acteurs anglais, mais ce sera à l'époque de Guizot et du jeune Alexandre Dumas, débutant lui aussi dans les milieux du théâtre. RCF, l'émission Carrefour de l'aventure. Alors, restent aussi des éléments, disons, psychologiques, intellectuels qu'on peut trouver dans Shakespeare via le peu d'archives sur lui et via aussi le message de son œuvre. Son patriotisme apparaît parfaitement réel et parfaitement fervent. On peut même attribuer à William Shakespeare un caractère patriotique d'un niveau mystique et tout à fait passionné. Et puis, notons-le, c'est une véritable force de propagande pour les Tudors que représente une bonne partie de ces pièces historiques sur le conflit entre la maison Tudor et la maison de Lancastre. Il suffit de se souvenir du portrait terrifiant qu'il dresse de Richard III et des hommes qui se dressent ensuite contre Richard III, qui sont des membres de la famille Tudor. Donc, propagandiste de la famille royale anglaise de la nouvelle dynastie, celle d'Henri VIII, celle d'Élisabeth Ier, c'est probable. Lié à des catholiques qui étaient eux-mêmes suspects aux yeux de la monarchie anglaise nouvelle, c'est probable aussi, et parmi ces catholiques-là, donc, de nombreux agents secrets ou de nombreux personnages liés avec les services secrets. Un autre élément, donc, ce serait que manifestement Shakespeare connaît bien la France, son histoire, sa langue, sa réalité concrète. Cela peut s'expliquer par des missions de renseignement de terrain direct. Et cela peut être vrai aussi, non seulement pour la France, mais en partie pour l'Italie, et peut-être même pour une partie de l'Europe du Nord. Il y a, au sujet de l'Europe du Nord, quelques impressions plus convaincantes. Shakespeare est peut-être l'agent William Hall, qui, entre 1592, 1593 et 1601 au moins, remplit plusieurs missions payées. Il figure alors sous ce nom-là, William Hall, sur des listes du service de renseignement. Des missions payées à Prague, puis en Pologne, mais surtout, finalement, en octobre 1601, au Danemark. Or, William Hall, c'était le nom d'un membre de la famille Hall de Stratford-upon-Avon, très lié à William Shakespeare. Et il était d'usage, dans les milieux des services secrets déjà, de choisir pour les agents un pseudonyme, mais un pseudonyme qui pouvait venir tout à fait aisément d'une famille proche de leur connaissance à ces agents, ce qui était le cas des liens de la famille Shakespeare et de la famille de William Hall. Or, il y a encore plus troublant. En octobre 1601, le fameux William Hall est chargé d'une mission, donc, au Danemark. En 1602, William Shakespeare enregistre au répertoire officiel sa fameuse pièce Hamlet. Être ou ne pas être un espion ? La question, bien sûr, reste posée pour Shakespeare. Elle n'est pas tranchée, certes, cette question. Mais enfin, avouez que le temps d'un carrefour de l'aventure et d'une promenade historique dans le siècle d'or tourmenté, passionnant, de l'Angleterre, de la reine Élisabeth, eh bien, avouez que cette question-là était bien séduisante. William Shakespeare reste le plus illustre, le plus mystérieux, le plus universel, le plus secret aussi, de tous les dramaturges, de tous les génies littéraires de l'Angleterre de l'époque d'Élisabeth, de l'époque d'une dynastie sanglante et étincelante, celle des Tudors. William Shakespeare, on ne le connaît que par bien peu d'archives et très peu de portraits de lui sont sûrs ou à peu près assurés. C'est un homme plein de secrets, plein de mystères, et ces mystères ne résident pas seulement au cœur de ses œuvres. Espion ou pas, précurseur de James Bond, du suspense à la Alfred Hitchcock, précurseur du fameux George Kaplan joué par Cary Grant bien involontairement dans La mort aux trousses, Hitchcock et Shakespeare mêlés, après tout, pourquoi pas ? C'est une entreprise et une tentation bien possible. Je vous laisse juge, réfléchissez-y et continuez de toute façon à lire avec passion un dramaturge pour qui l'histoire, la vie politique, la vie militaire, les secrets politiques et les drames intimes, officiels ou cachés, restent des clés essentielles dans toute son œuvre. Continuez à lire Shakespeare. Et pour savoir s'il était, oui ou non, un espion, faites-vous votre idée, mais avouez que, à la croisée des chemins, entre l'histoire, le rêve et l'hypothèse, il y a parfois des pistes bien séduisantes qu'on ne peut pas s'empêcher de prendre et de suivre. Vous retrouverez, en attendant d'être peut-être plus convaincu, Carrefour de l'aventure, la semaine prochaine.